bon jouir, c'est Agathe.
Incroyable.
Mais ben... qu'est-ce qui se passe?
Incroyable cette musique, ce générique qui résonne dans nos oreilles et peut-être dans nos cœurs, on l'espère. On ne l'avait pas entendu depuis si longtemps, Benjamin Béchler, bonsoir.
Bonsoir Agathe, quel bonheur de se retrouver.
Quelle joie d'être à nouveau derrière nos grosses bonnettes.
Mais oui, mais je crois que je vais faire une flaque sur mon fauteuil. Je suis tellement heureux de,
mais oui.
De te retrouver, de vous retrouver.
Moi c'est pareil, je fais un peu ventouse avec ma chaise. Il va falloir me tourner pour m'enlever, tu sais. C'est ça.
Et voilà, on et reprend voilà. Déjà les bonnes vieilles habitudes.
Ah là là, ben voilà, ça n'aura pas duré très longtemps. Le sérieux, d'ailleurs, le sérieux n'existe pas avec Bon Jouir. Et Bon Jouir, pendant un temps, n'a pas pu tellement exister, car le sérieux était trop fort autour
voilà,
de nous.
Voilà, c'est ça.
C'était...
Il a tout écrasé sur son passage.
Oui, c'est ça. Voilà, il nous a... En tout cas, il... Enfin, je dis nous, hein, parce que... Voilà. Mais on peut dire nous un peu, mais il nous a emmenés dans un petit tunnel. Et ben, écoutez, voilà, la lumière arrive au bout de ce tunnel. On revoit eh bien, le plaisir de jouir de la vie, le plaisir de retrouver la lumière.
Et en plus... Regardez, il fait un soleil merveilleux dehors, il commence à faire chaud, c'est voilà, parfait, on arrive au bon moment en fait.
Il est quand même 23h mon cher
ah
Benjamin.
Ah oui, c'est vrai.
C'est...
Sur Canal B.
Mais chez moi, écoutez, il fait grand soleil.
Chez vous, en Alaska, il fait grand soleil. Voilà, mais ça c'est bien et ça c'est, on est contente. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte aussi de la qualité des moyens techniques de Canal B, car on peut faire un duplex.
Mais oui, c'est ça qui est fort.
Avec vous, sans que ça s'entende
mais
finalement.
Voilà.
Là, on vient de vendre la mèche, mais.
Et en plus, on peut faire un petit hommage. À ce restaurant rennais qui s'appelle Alaska et dans lequel nous avons déjeuné.
Tout à fait.
Et c'était nos retrouvailles Bon Jouir.
Oui, voilà. Tout à fait. Car pour retrouver la chaleur, il faut parfois aller vers le froid. Bon, voilà. Alors,
Maîtresse Agathe, merci pour ces paroles sensées.
On va créer des post-it, vous les collerez bien sur votre frigidaire, où vous voulez d'ailleurs, vous pouvez vous les coller au cul
aussi.
Non,
j'étais en train de me dire qu'on pourrait créer des magnettes, ça nous ferait du merchandising.
Non, alors c'est vrai que moi je pensais à ça, pendant un petit temps j'avais fait des petits badges, c'est sympa mais en fait ça...
Bah là ça va être un peu long quoi, pour un badge quand même.
Ouais, non, ça va être chiant, mais donc et puis on refait pas ce qu'on a déjà fait, on essaye de s'améliorer. Mais je me disais effectivement qu'un petit merch, ce serait vraiment sympa. Donc pourquoi pas, pourquoi
voilà,
pas.
On pourrait vendre notre merchandising tous les samedis matins sur, sur la place des Lices, par exemple.
Oui, bah on va faire le stand Bon Jouir, voilà, au marché. On retrouvez-nous le mercredi à Sainte-Thérèse, le mardi dans le quartier Alphonse Guérin. Voilà.
Et toujours à côté des galettes saucisses, bien sûr. Parce que si ça sent pas la saucisse, quelque chose qui va pas.
C'est ça. Donc voilà. Bon ben en tout cas, c'est une très longue introduction qui d'ailleurs on sait presque plus faire une émission de radio, on doit bien vous le dire, on était là.
On est un peu rouillé donc
la console, comment ça marche?
Faut remettre les doigts dedans. dans l'engrenage.
Donc on est en train de remettre les doigts dedans, alors on les a bien graissés et tout, c'est super. On voit si ça fait quick à des endroits ou plutôt
On remettra un peu de lubrifiant s'il faut. Quoi.
Ouais, s'il faut. Donc soyez tolérants pour cette reprise, en tout cas, sincèrement. Et là, on dit des conneries, mais on dit aussi le fond de notre cœur et de notre pensée. On vous remercie pour votre patience et puis peut-être pour le fait que vous allez l'écouter, cette nouvelle émission.
Et vous avez été patient et vous serez récompensé.
Bien sûr. Alors oui, absolument. Alors on a un très gros programme ce soir. On va parler justement du fait d'arrêter d'avoir des relations sexuelles. Allez, salut. Et c'est la fin de Bon Jouir. Ben non. Enfin, bon, quoi qu'en même temps, ça en fait partie. Mais voilà, non, on ne va pas parler que de ça. Mais il y a un petit peu de ça au programme. Bon, on a prévu pas mal de choses. On a prévu aussi de se laisser spontanément vivre et d'être avec vous, simplement. Et ça nous fait déjà plaisir.
C'est sûr. On est tellement en joie.
On est en joie. Alors bon, on n'a pas eu d'émission depuis un certain temps. Hein. On peut, voilà, se le redire. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce mais c'est ça.
Le monde a quand même continué de tourner malgré
bizarrement.
Cette pause.
On aurait espéré que non. Mais...
bah oui, mais en fait, oui. Bon, alors oui. C'est pas.
Alors, ma chère Agathe.
Oui.
Ben moi, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà. Moi, je me dis, on est passé à côté de choses. Tu sais, c'est le FOMO, the fear of missing. Mais le haut, du coup, je sais pas ce que c'est à la fin. The fear of missing something, un truc comme ça. Tu vois ce que c'est ? Cette nouvelle angoisse générée par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu scrolles Facebook, Insta, et tu fais « Ah, oh, mais il y a Josiane qui est allée faire tel truc, et moi, j'y étais pas, je suis une merde parce que je n'y suis pas, alors que tout le monde y est, et tu vois, donc c'est
alors que Josiane est super. Franchement,
alors que ça se trouve, oui.
Hein, Josiane... On n'en sait rien, c'est juste que... forcément, t'es tombé sur sa news à tel moment et tu t'étais un petit peu en down et tu t'es dit, bah voilà, moi je fais rien, je passe mes journées chez moi et mes soirées aussi.
Voilà.
À caresser mon chat et Josiane, elle va en boîte, elle va au festival, elle va... Bah voilà.
Elle caresse des chattes et moi je suis là avec mon vieux chat, je comprends pas.
Ouais, mais est-ce qu'elle arrête pas des choses pendant qu'elle est en train de publier ses posts, tu vois ?
Non, mais elle rate forcément des choses.
Et j'ai envie de dire, est-ce que cette peur est vraiment nouvelle ? Parce que ça me rappelle un peu quand t'es gosse, que t'es un repas de famille ou un mariage, et que t'arrives pas, enfin tu trépignes, tu fais des crises parce qu'il est l'heure d'aller se coucher et que tu vois bien que tout le monde
les
continue la fête
marrent.
Et que tu vas peut-être rater quelque chose, tu vois.
Et oui, alors que finalement, ce que tu vas rater, c'est quoi ? Eh bien, c'est peut-être la partouze
entre tonton,
j'allais le dire,
et mamie,
tonton Raymond et cousine Yvette. Et que vraiment, ça aurait été dommage que toi, à 9 ans, tu loupes ça. Voilà, en tout cas, nous, on s'est demandé un petit peu ce qui s'est passé pendant que Bonjour était en mode pause. Je pense qu'on a loupé des choses assez importantes et primordiales. Par exemple, quand même, le couronnement de Charles III. Hein.
Mais oui.
Voilà, je viens d'y penser, mais c'était pas rien.
Qui était en plus une cérémonie assez sexy.
Niveau sexy, on était... Ouais, l'archevêque là, de Canterbury. moi, j'ai regardé, mais je n'ai pas pu regarder la cérémonie en entier. J'avais trop chaud, quoi. Ah. Vraiment, il m'a peu titillé, quoi. Sans parler des diacres et des enfants de cœur, là, j'ai eu un peu... Non, pardon, qu'est-ce que j'en Qu'est-ce que je dis
On va se faire censurer.
Ah non, merde, attention. On revient et c'est déjà fini. Merde alors. Bon, on a raté une belle sortie littéraire.
Mais
déjà.
Oui, alors tout le monde en a parlé, évidemment. Ben ouais. Plein de blagues ont été faites à ce sujet-là, donc peut-être que ça vous dit quelque chose.
Oui.
Si on vous parle de renflement brun, c'est cela, non ?
Non.
Non, pas du tout.
Ah oui, si, renflement brun. Non, je ne vois pas du tout. De quoi vous me parlez, monsieur ?
Alors, ma chère Agathe, est-ce que vous avez lu ce livre ?
Bien sûr, bah moi, je lis tous les livres. Hein. Envoyez-nous, d'ailleurs, et envoyez-moi tous vos livres. Je les lirai tous. C'est vraiment mon truc.
Et est-ce que vous pensez que, du coup, Bruno Le Maire peut arrêter sa carrière politique pour se consacrer à l'écriture ?
Bah, écoutez, moi, j'avais envie de me dire qu'il aurait fallu peut-être demander à des gens dont c'est vraiment le métier, par exemple Anne Hautecoeur, qui dirige la maison d'édition La Musardine, fortement spécialisée quand même dans l'érotisme et les sexualités. Bon, on n'a pas eu le temps de faire un duplex avec Anne Hautecoeur pour savoir un peu si elle aurait, elle, pris ce livre. Enfin, bon. Mais en même temps, c'est pas beaucoup. Les gens sont vraiment, je trouve, un peu critiques, parce qu'après tout, oui, on peut être homme politique et auteur, c'est pas le...
Oui, c'est pas première fois, c'est pas la dernière fois non plus que ça arrivera.
Ben non, et puis c'est peut-être un des rares à vraiment écrire ses livres, contrairement à d'autres qui peut-être se les font écrire, je ne sais pas. Mais bon, je trouve que oui, on a tendance toujours à juger. Alors on a la peur de manquer des trucs et puis on a aussi la faculté à juger peut-être un peu trop rapidement. On va s'en faire une idée de façon autonome et personnelle,
tout à fait.
N'est-ce pas ?
Alors j'ai hésité, moi, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de lire son livre. Et en même temps, je t'ai dit, J'ai pas très envie que mon argent aille dans les poches de Bruno Le Maire.
Bah, je comprends pas. Déjà, il y va déjà, tu sais.
Donc... Oui, mais c'est pas la peine d'en rajouter.
Pas consciemment. Le consentement, hein, soyons quand même très au clair, on va remettre ça aussi sur le tapis, mais le consentement à se faire dépouiller, c'est quand même une base. Bon, ben, moi, gratuitement, je vais pouvoir partager ces quelques lignes. C'est un peu le cadeau de cette rentrée, enfin, de fausse rentrée. Alors, j'ai pas le début de la phrase. Mais ça suffira bien, je crois. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est que vous fassiez votre idée, hein, et... Voilà, et tu me diras, toi Benjamin, si tu aurais eu plaisir à le lire cet extrait. Ah. Mais je me jette à l'eau, d'accord ?
Vas-y, jette-toi. Plouf.
Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excitée comme jamais. Je mouille. Donc c'est une citation. Hein.
Ok. Voilà.
Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. T'as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? T'as vu, Oscar ? Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar ? Je suis dilatée comme jamais. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Elle était folle d'amour. Et moi, j'étais en extase.
Waouh.
Waouh. Alors.
Eh bien, si on met de côté le fait que c'est Bruno Le Maire qui l'a écrit, oui, j'aurais pu tout à fait lire ce genre d'extrait.
Oui. Alors, quand même, si on fait une petite analyse littéraire... Ah. On peut quand même se dire qu'on remarque qu'on peut parler de renflement brun de l'anus, mais qu'en même temps, il faut avoir un visage d'ange. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite offrir son trou de balle, mais quand même rester une femme...
Bien sous tout rapport.
Bien sous tout rapport. Mmh. C'est fou ce truc. Moi, c'est un peu ça qui me saute à l'oreille, enfin aux yeux même d'ailleurs. Voilà, ça c'est un peu ce truc-là. Bon, c'est pas non plus scène de ouf. Hein.
Non, mais... c'est sûr. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'en tant que femme, effectivement, après ces règles, on peut se sentir très excitée
Bah ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment
ça,
de...
En fait, ça dépend de la femme, quoi.
Bah, c'est ça. Hein. Mm. Est-ce qu'il y en a qui sont complètement excitées pendant les règles, d'autres après, d'autres avant Bon, le côté un peu « je mouille, je suis excitée, donc je mouille », c'est un petit peu un regard masculin quand même hein, sur l'excitation féminine. C'est pas si... voilà. Je trouve ça un peu donc je suis excitée, donc je mouille. Tu sais, c'est vraiment voilà. Bon, c'est pas le plus juste ni le plus fin sur l'analyse du désir féminin. Je suis excitée, donc je mouille, donc je te donne mon cul. C'est ce qu'on fait à peu près tout le temps. D'ailleurs, moi je fais ça régulièrement.
Ah mais pff,
toi aussi d'ailleurs.
Je marche dans la rue, je vois des femmes qui offrent leurs fesses sans arrêt. Je suis là. Mais... Désolé, pas pour cette fois.
3 jours après les règles, c'est un classique. Hein. Vous pouvez repérer les femmes qui viennent d'avoir leurs règles. Elles se trimballent, le renflement brun à l'air, c'est dingue. C'est fou, ouais. Ouais, ouais. C'est un signe. Hein. C'est pas fifou, mais après tout, on a le droit, quand on est auteur aussi, de vouloir aller explorer les zones de l'érotisme. Et qu'est-ce qui fait que...
Et puis, on a le droit d'être un auteur pas terrible aussi.
Oui. Hein.
Je veux dire, il en faut...
Bah, vu le nombre de bouquins
qui sortent... Si tous les auteurs et les autrices excellaient, qu'est-ce qu'on s'ennuierait.
Et puis, est-ce que ça rajoute pas un peu de piment de se dire que ce mec-là, peut-être il a pensé à cette situation en plein Conseil des ministres. Moi, quelque part, je me dis, alors ça ramène un petit endroit de créativité dans quelque chose qui, a priori, sec et mort. En tout cas, c'est le point de vue que j'ai sur
la politique. Est-ce que ça allait exciter de savoir que Marlène Schiappa allait poser dans Playboy ? Je ne sais pas.
Peut-être qu'il y a un lien de causalité, mais ça, oui.
Parce qu'il y a, y a eu ça aussi.
Oh putain, mais merde, on a loupé trop de trucs. Ah là là, il suffit qu'on soit pas là pour que les gens se marrent, quoi. Ben oui. Non, mais c'est pas... Bon, après, c'était pas des photos de ouf. Hein,
non, c'est vrai. Elle était plutôt habillée comme un sac, d'ailleurs.
Donc, carrément mal habillée. Et puis, alors, côté renflement brun, là, c'était vraiment zéro.
Ah oui, il y avait rien à voir. Rien, ouais.
Donc voilà, en tout cas, on saura que peut-être Bruno Le Maire ne connaît pas la dépigmentation voilà, de l'anus, parce qu'elle aurait pu avoir un renflement rose.
Mais tout à fait.
Donc quelque part, c'est pas mal. On ne sait pas s'il était poilu ou pas, ce trou du cul.
A priori, peut-être qu'il le décrit plus intensément dans le reste du livre, on ne sait pas.
Oui, alors si vous l'achetez et que vous avez envie de photographier les extraits les plus chauds, n'hésitez pas à les partager avec nous. On sera ravis de les lire pour vous. Hein, voilà, sachez-le. Si vous avez envie d'ailleurs de nous envoyer des petites lectures à faire, voilà, n'hésitez pas. Hein, nous, on lit tout, on est vraiment tout terrain de la lecture érotique.
Tout à fait.
Bonjour.
Sur Canal B.
Donc il y a eu ça, ça c'est vrai qu'on a loupé ça. On a loupé aussi quand même eh bien une autre actualité plutôt dramatique, celle-ci, mon cher Benjamin.
Grâce au journal Slate, nous avons pu découvrir qu'après un marathon de sexe et de drogue, un homme a risqué l'amputation de son pénis.
Oh là là, quelle affaire affreuse.
Mais c'est affreux, et je vous en dirai plus quand je retrouverai l'article à nouveau.
Une amputation du pénis, ça fait pas marrer ça.
Donc l'article nous dit qu'un touriste allemand âgé de 50 ans et qui était en voyage en Italie s'est retrouvé à l'hôpital de Grosseto, en Toscane, après avoir passé 24 heures à se droguer et avoir des rapports sexuels à la chaîne.
Ah ouais, ouais.
Eh oui, eh oui. Le touriste et sa femme auraient pris de la MDMA.
C'est
et
pas bien,
auraient
ça.
Passé donc des heures et des heures à faire l'amour. Et il faut savoir que monsieur a subi un choc septique et souffert d'une nécrose du pénis et du scrotum. Voilà.
Ok.
Donc j'espère que vous avez dîné léger, puisque vous risquez d'avoir des renvois. Hein.
Je vois pas, j'essaye de visualiser la nécrose du pénis, ça fait pas marrer hein, quand même.
Ben non, ça fait pas rêver du tout. Donc bon, on peut vous dire, consommez avec modération ou ne consommez pas du tout. Enfin, vous êtes grand et vous faites ce que vous voulez. Hein.
Oui, tout à fait.
Et évitez de croire que vous pouvez être surhumain et baiser tout un week-end sans vous arrêter et sans dormir surtout.
Ouais, bah, et puis aussi, rappelons-nous qu'on n'est pas obligé de baiser avec nos sexes. On a des doigts, on a une bouche, on a une langue, on a plein d'autres accessoires.
Oui.
Des orteils que l'on peut fourrager dans des coins secrets.
Oui, voilà. On peut aussi utiliser des tapettes à mouches pour donner la fessée. Ou... Ah ben quand on est en vacances, on fait ce qu'on a sous la main.
La raquette de ping-pong.
Oh, ouh. Les balles
tournante.
De ping-pong. Ouais. Ça me rappelle le film Priscilla folle du désert.
Ben oui, non, il y a avec les sports d'été, il y a plein de choses à faire. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos organes génitaux.
Ah, ben ça pourrait faire l'objet d'une chronique à venir pour une émission de l'été.
Ah ouais.
Avec quoi on peut s'amuser en vacances sans avoir à dépenser d'argent.
Ah
attention.
Bah non, bien sûr. Et puis d'une façon très écologiquement responsable.
Évidemment, évidemment.
Bon alors pendant le morceau qui va suivre, on va réfléchir à ça, Benjamin. On va écouter, en tout cas, ça n'a aucun rapport, mais on s'en fout des rapports. C'est nous qu'on décide, comme on dit. On va écouter Éloi. Éloi, qui est une chanteuse qui a signé sur le label de Rebecca Warrior, qui s'appelle Warrior Records. C'est un morceau qui s'intitule « Soleil mort », qui est un peu vénère et que moi, j'aime beaucoup. Allez, à tout à l'heure.
Perdu dans l'ombre, j'ai fini par me casser.
Mon cher Benjamin,
oui,
si
ma chère
je
Agathe.
Te dis, si je te dis...
Dis-moi.
Luc, tu me réponds.
Q. Ouais.
Ok. Ça, d'accord.
Ah non, ah, je sais.
Tu sais, ça y est.
C'est l'heure de ma lecture de L'Innocente de Luc Farnade.
Ah ouais.
Dans la collection des Nouveaux Interdits aux éditions Média Mille.
Oui, ah oui, ta lecture.
Oh, trop bien.
Ta lecture.
Oh, Sophie resta d'abord tétanisée. Elle savait qu'il fallait réagir vite, sortir de là. Mais elle ne parvenait pas à se ressaisir. Elle respira un grand coup, puis se rhabilla à la hâte. Elle quitta sa cabine et ouvrit celle du voyeur pour regarder à l'intérieur, troublée. En quittant les toilettes, elle constata avec soulagement que le couloir était désert. Elle se dirigea vers l'ascenseur, mais se ravisa et emprunta les escaliers. La nécessité absolue, c'était de ne croiser personne et prendre le temps de réfléchir. Était-ce lui ? Elle venait à peine de commencer lorsqu'elle avait entendu le léger grincement d'une poignée. Aux aguets, elle avait alors tendu l'oreille, mais n'avait rien entendu. Elle avait donc repris son activité. Elle était sur le point de jouir, lorsqu'elle crut sentir le parfum de Julien. Sa machine à fantasmes s'emballa à ce moment-là. Elle imagina son collègue de bureau entrer dans les toilettes et la regarder par-dessus la cloison de la cabine voisine. Il l'épiait avec avidité et elle, fixant son regard droit devant, faisait semblant de ne pas savoir qu'il était là. L'illusion était totale. Ce fantasme l'avait conduite à s'enhardir. Elle s'était déshabillée, écartelée, et avait fait semblant d'être habituée à la sodomie alors même qu'elle ne s'y était jamais essayée. Quoiqu'un peu douloureuse, la sensation de ses doigts dans son cul, sous le regard du voyeur imaginaire, l'avait électrisée. Elle ne put résister à l'envie de se pénétrer avec son flacon de déo. « Mon Dieu, quelle honte !» se dit-elle. Elle arriva au niveau du sous-sol et joua avec l'idée de partir et de ne plus jamais revenir, puis se ravisa. Qui l'avait espionnée ? Plus elle revivait la scène, plus elle se persuadait qu'elle avait réellement perçu les effluves du parfum de Julien. Elle poussa la porte donnant sur le parking souterrain et regarda autour d'elle. Il était désert, à l'exception de sa voiture. C'est en prenant le volant, décidée à repasser chez elle pour se changer et se remettre de ses émotions, qu'elle aperçut sur le parking extérieur la berline de Julien. Un moment après, vêtue d'un jean, d'un t-shirt et d'une paire de chaussures noires à talons hauts, elle entra dans le bureau en lançant un joyeux « bonjour » à son collègue. Elle lut sur son visage un mélange d'angoisse et de surprise qui lui permit de s'assurer qu'elle tenait la situation sous son contrôle. Évidemment, sa position était délicate, mais pas désespérée. Elle vit dans le regard de Julien toute l'incompréhension qu'elle avait espérée. De toute évidence, il s'attendait à l'avoir débarqué dans une toute autre tenue. Elle était revenue au bureau à pied. Cette demi-heure de marche lui avait permis de se remettre les idées au clair. D'abord, s'était-elle dit, il ne pouvait l'avoir observée du haut de la cloison mitoyenne. Dans la position qu'elle occupait, à moitié couchée sur la cuvette, elle aurait forcément perçu sa présence. D'ailleurs, le bruit qu'elle avait entendu à la fin provenait du bas de la cloison. C'est donc qu'il observait depuis l'interstice inférieur. Aussi, elle était à peu près sûre que son collègue n'avait pu apercevoir son visage. L'ébahissement qu'il venait de manifester avait achevé de la rassurer. S'il avait pu croire que c'était vraiment elle aux toilettes, il paraissait à présent déconcerté et présentait la mine de quelqu'un qu'on venait brutalement de sortir de ses illusions. Elle avait aussi examiné sa situation sous l'angle de la faute. La honte l'avait d'abord envahie. Elle s'était imaginée dénoncée et livrée à la vindicte. Mais elle se rendit vite compte que c'était plutôt à lui d'avoir peur. Alors,
Au diable la culpabilité. Elle s'aperçut qu'elle s'autorisait maintenant à se mettre en colère et cela la soulageait. Elle voulait le faire payer. Elle avait été son objet et trouvait juste d'inverser désormais les rôles et de lui faire éprouver la terreur qu'elle avait elle-même ressentie. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-elle. « Rien, pourquoi ?»« Tu me regardes comme une revenante, tu es tout pâle, ça ne va pas, je te dérange ?»« Non, non, tout va bien, je te jure. » »« Bon, dis donc, on ferait mieux d'aérer, on se croirait dans une poissonnerie ici. » Julien piqua un phare et Sophie jubila. Elle avait dès son arrivée immédiatement perçu une odeur de sexe, laissant présager que son collègue venait de se branler. Elle continua à le torturer. « Tu trouves pas que ça sent drôle ?» Julien renifla et secoua la tête. En passant devant lui pour ouvrir en grand la fenêtre, Sophie feignit de faire tomber par inadvertance la graffeuse. Elle se trouvait sur le bord du bureau, à la verticale de la corbeille à papier, où elle chuta. « Ah, pardon !» Julien, les yeux écarquillés, esquissa un geste pour récupérer l'objet, mais Sophie le prit de vitesse. Elle se baissa et saisit la graffeuse au milieu d'une poignée de mouchoirs usagés encore humides. « Tiens, la femme de ménage n'est pas passée dans notre bureau, il reste plein de mouchoirs. » En ressortant la graffeuse de la corbeille, elle frôla volontairement l'un des mouchoirs. Elle sentit aussitôt la viscosité du sperme encore tiède de son collègue lui imprégner la peau. Cela lui parut irréel. La pensée qu'il venait de jouir quelques minutes plus tôt acheva de la troubler. Elle décida de faire comme si de rien n'était et reposa l'instrument sur le bureau de Julien qui observait comme au ralenti l'objet arrivé devant lui. Ce geste en apparence des plus banals dépassait tout ce qu'il avait connu de sulfureux. Il distinguait nettement, sur deux des doigts de la jeune femme, une épaisse traînée translucide et blanchâtre dont une partie se fixa sur l'ustensile. Était-il possible qu'elle ne se soit aperçue de rien ? Pendant les 5 secondes qu'il fallut à Sophie pour regagner son siège, Julien, hypnotisé par son agrafeuse, ne pouvait croire que cette larme de sperme luisante avait été en contact avec la main de sa collègue. Mortifié, il fixa son écran, incapable de regarder à nouveau les traces coupables qui maculaient son bureau, et encore moins de poser les yeux sur sa collègue. Sophie se délectait de la situation. C'était scabreux, mais elle parvenait malgré tout à conserver tous les semblants de son ingénuité. Confortablement installée devant son ordinateur, elle décida d'aller plus loin en extrayant de son sac quelques gâteaux qu'elle gardait pour ses petits creux. Elle saisit le paquet de sa main propre et saisit un biscuit de ses doigts encore gluants. Julien, qui n'avait pu s'empêcher de relever les yeux, surprit la scène. C'était un rêve éveillé, ou un cauchemar, il ne savait pas. Sophie fixait l'écran de son ordinateur en mangeant. En dépit des 2,50 m qui les séparaient, Julien voyait luire son foutre sur le majeur de la jeune femme. Ou alors hallucinait-il ? Feignant d'être concentré sur la lecture d'un mail, Sophie acheva son gâteau et se lécha les doigts. 2 secondes à peine s'écoulèrent avant qu'elle n'émette une réaction de surprise. Julien vit passer une expression interloquée sur le visage de la jeune femme lorsque celle-ci, juste après avoir émis un bruit de bouche vaguement caractéristique de celui des œnologues en dégustation, balbutia. « Mais c'est du... » D'un pas résolu, visage fermé, elle quitta le bureau sans rien ajouter. Julien demeura figé devant son ordinateur, le regard vide, rempli d'effroi. Il aurait voulu trouver le courage de rattraper Sophie, de la raisonner pour l'empêcher de le dénoncer, mais il n'eut pas la force d'affronter à nouveau son regard. Au fil de la journée, la panique se transforma en abattement, nourrie par l'exploration de toutes les conséquences que son geste entraînerait. Peut-être se trouvait-elle en ce moment même dans le bureau du directeur ? La fin de la journée approchait et la jeune femme n'avait toujours pas reparu. Les autres bureaux se vidaient peu à peu, il resta seul dans le sien, le cœur lourd en suspens, comme un condamné attendant sa peine. Quand il se résolut à rentrer chez lui, la nuit d'une noirceur écrasante semblait elle aussi le condamner. Trois jours passèrent, insupportablement ponctués de rêveries toutes plus anxiogènes les unes que les autres. Sophie était en arrêt maladie. Combien de temps ? Pour quel motif, au juste ? Tout le monde l'ignorait. Et Dieu seul savait ce qu'elle envisagerait de faire à son retour. Si elle était à ce point traumatisée, se disait Julien, il était impossible que Sophie soit la femme qui l'avait matée aux toilettes. Il ne comprenait plus rien. Le fait que les deux événements soient à ce point rapprochés dans le temps ajoutait d'ailleurs à sa confusion. Le premier l'excitait encore, il savait qu'il n'oublierait jamais ce spectacle. Le second, totalement clivé du premier, ruinait au contraire toute envie de sexe tant il l'angoissait. Sophie revint une semaine plus tard.
Elle était bien ta lecture.
T'as vu ça ? Oh, ouais. C'était délicieux. J'en ai encore partout.
Ça fait du bien de retrouver ta voix comme ça.
Ah, c'est gentil, Agathe.
Bah ouais.
Moi-même, elle m'avait manqué.
Ok. Alors, on se demandait aussi ce qui s'est passé d'autre pendant cette période
Mais oui.
de pause. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un compteur du nombre de, par exemple, eh bien, de coïts,
oh.
tu vois, pendant ces semaines
ah, oui.
de pause.
Ah, ce serait chouette, ça.
Ce serait bien.
Ouais.
Alors, je peux vous dire déjà que mon voisin du 5e a mis quelques points à son actif hein, sur le compteur.
Ah.
Ça, c'était pas mal joué, je dois dire. Voilà. Mais je me demande, tu vois, s'il y a ça, si on pourrait imaginer un compteur du nombre d'éjaculations faciales, du nombre de sodomies, aux pénétrations dans les renflements bruns, dilatés.
Bah, il pourrait y avoir ça avec, tu vois, par exemple, les gens qui ont des montres connectées.
Ah ouais.
Il y a des suivis, tu vois, des battements du cœur, tout ça.
Ouais.
Il pourrait suivre les ébats et
tout à fait.
Entrer toutes les données, tu vois.
Ouais.
Ce serait un peu flippant aussi, je pense.
Ah, non, mais tu vois, alors c'est marrant que tu dis ça, parce que récemment, je suis allée justement dans un lieu que j'aime beaucoup à Rennes. Voilà, mon petit lieu secret. Non, pas du tout, mais enfin, en vrai, j'aime beaucoup cet endroit. Je sais pas pourquoi. C'est un atelier d'horlogerie qui s'appelle Horolage, H-O-R-O-L-A-J, qui est dans la rue des Galeries Lafayette, trottoir d'en face, quoi. Et ces deux hommes qui tiennent cet atelier d'horlogerie. Et vraiment, c'est un endroit assez magique. Parce que c'est ton histoire de compteur qui me fait penser à ça et de montre connectée.
D'accord.
Puisque donc, j'y ai déposé une montre. Hein. A priori, je n'ai pas été là pour...
Oui, je me demandais à quelle occasion. Non, j'avais juste envie de faire un tour là-bas.
J'avais juste
d'accord.
envie d'aller me faire remonter le...
le pendule.
La pendule, oui. A priori, parce que remonter le pendule, oui. ce serait plus si j'avais eu un tampon avec une boule, tu vois, mais, ou un truc de merde, de boule de geisha,
mais
ça
oui,
ce serait faire remonter le pendule.
Oui.
Bon, bref, mais donc, je suis allée là-bas pour déposer une montre, et ils ont quand même cette... un truc assez magique, cette machine, en tout cas pour moi, tout est un peu magique pour moi de toute façon, c'est que tu poses ta montre, pas une montre à quartz hein, évidemment, sur, bref, dans une machine qui écoute le battement, le fonctionnement, le roulement, je n'ai pas les termes techniques, désolé, de ta montre. Et donc tu entends le tic-tic-tic-tic-tic-tic, tu entends ça, tu vois, cette douce musique qui est un peu comme un battement du cœur, et je trouve ça hyper poétique.
Wow.
Voilà. Et je me dis, ce serait quand même, voilà, en t'entendant parler de montres connectées et tout ça, d'essayer d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de nos corps quand on fait l'amour. Ça se fait, voilà, on sait qu'il y a des études où il y a des gens qui font l'amour et qui se font planter, enfin poser des électrodes
oui.
sur le cerveau pour voir ce qui se passe là-dedans, mais au niveau du cœur et en tout cas de la machine.
Mais imaginez si on pouvait mettre des micros dans leur corps.
Mais oui, mais non, mais moi je me dis ce serait quand même assez dingue là. Et voilà, je pensais à ça. Et cette machine qui regarde la santé de ta montre, voir si elle perd des secondes, plus elle tourne, etc. Eh bien, j'ai trouvé que c'était très, très beau. Voilà.
Ah, mais ce qui serait super, alors je ne sais pas s'ils font des tout petits micros hydrophones, mais... tu te mets un micro dans le cul ou dans le vagin ou dans la bouche
ouais.
pendant que tu es en train de faire une fellation, de te faire prendre. Et puis là, t'as tous les bruits, tu vois.
Ouais. Non, il y a sympa. Un truc. Hein. Mm. Voilà. Ouais, je trouve que la musique, tu vois, ou la rythmique du corps. Mm. Et ben voilà, bon, c'était un petit, une petite parenthèse.
Est-ce qu'un artiste, un ou une artiste, ont déjà essayé de faire une symphonie
bah, je ne sais pas.
Du sexe, une, avec des rapports du cul. Sexuels, tu vois, des, des jouissances, tu vois.
Oh, ouais. Oh, bah, j'imagine que dans les années 70, ils ont bien dû jouer à ça, mais ils n'avaient peut-être pas
la technologie. On y revient aux drogues, hein, on y revient.
Mais ils n'avaient peut-être pas la technologie pour rentrer des trucs dans les renflements bruns. On adore cette expression. En tout cas, voilà, je leur fais de la pub si vous avez des montres à réparer ou simplement envie de vous faire... ausculter l'intérieur, et bien aller chez Horologe, c'est vraiment un bel endroit pour
alors
ça.
Si vous y allez en disant que vous venez vous faire ausculter l'intérieur, ne soyez pas étonnés s'ils vous mettent à la porte, mais voilà.
Oui,
vous serez
peut-être
prévenus.
Ils n'ouvriront pas la porte, parce qu'il faut prendre rendez-vous, donc peut-être ne mettez pas, voilà, bon, faites comme vous voulez, encore une fois, mais toujours avec le consentement, et puis avec quand même l'envie que ce soit plutôt chouette, la vie, je sais pas comment dire, mais bon jouir c'est aussi évidemment le cul, mais c'est aussi, il y a le côté bon.
Il y a le côté bon et il y a le côté plaisir, et le plaisir, c'est, enfin les plaisirs, c'est assez vaste aussi.
Bon jouir.
Sur Canal B.
Alors bah, tiens, à propos de plaisir de lire... voilà une transition toute trouvée. Je monte le livre comme si on était à la télévision, mais non, nous ne sommes pas sur France Inter.
Où sont mes caméras? Où sont mes,
caméras? Je suis désolée.
On n'est pas assez vite, désolée Agathe.
Ah pardon, excusez-moi, je suis perdue. Dès qu'il s'agit de livres, je pense qu'il y a une caméra partout. Donc, voilà. Oui, alors à propos de lecture, si vous aviez peut-être rien à lire une fois que vous avez fini ce fameux livre de Bruno Le Maire, dont on ne donnera pas le titre parce qu'en fait, en vrai, on ne s'en rappelle pas. Et
c'est une bonne raison.
Et on préfère vous conseiller une lecture bien plus intéressante, qui est celle du dernier ouvrage d'Ovidie. C'est quand même un peu plus dans le thème de bon jouir. Et alors bon, le titre est un petit peu malheureusement, voilà, un peu triste et dramatique. Non. La chair est triste, hélas. Voilà, ça c'est le titre. Dans la collection Fauteuse de troubles chez Julliard, Ovidie raconte comment elle a décidé d'arrêter. La sexualité, c'est pas la sexualité en général, mais c'est la sexualité avec les hommes. Elle dit « J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée par politesse pour ne pas froisser les égos fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joué. À tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après. Aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur, aux pénétrations à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystites du lendemain. À tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité. À toute cette mascarade destinée à tirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour. Sans doute par peur d'être abandonnée, une fois fripée comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. » Et c'est la fin de Bon Jouir. Allez, salut.
Il y a beaucoup de fins, dis donc.
Mais oui, mais le début est toujours la fin de quelque chose. Non, pardon, c'était pas ça. Mais il y a un passage que j'aurais bien aimé partager avec vous, si vous en êtes d'accord.
Moi, je suis d'accord, en tout cas.
Ouais, vous êtes...
Ouais, et je sais que nos auditeurs masculins adorent votre voix, particulièrement Agathe, donc faites-leur plaisir un peu, s'il vous plaît.
Je sais pas si le contenu de ce que je vais dire va leur faire beaucoup plaisir. On a beau connaître l'histoire par cœur, on revient sans cesse vers eux. Et le plus grave, c'est qu'on les défend. Il ne faudrait pas non plus passer pour des méchantes sorcières misandres, des féministes poilues, qui, c'est bien connu, finiront seules avec leur chat, malheureuses de ne plus être regardées. On craint tellement d'être décotées à l'Argus qu'on préfère caresser les hommes dans le sens du poil, y compris lorsqu'ils nous humilient, lorsqu'ils nous frappent et nous violent, car rien n'est pire dans notre société que de ne plus être désirable. On accepte de rester chosifiées, à condition d'être un objet de valeur, pas une salope bon marché. On est prête à tout, même à enfoncer les autres femmes dans une compétition intrasexuelle sans pitié. Oh non, moi je suis pas féministe, hein, j'adore les hommes. Et si on tend l'oreille, on entendra ce cri du cœur. Pitié, ne cessez pas de me désirer, de me dire que je suis la plus belle que les autres femmes, plus belle que mes amis. plus belle que mes collègues, plus belle que ces jeunes filles sur lesquelles les hommes se masturbent. Car la beauté des autres nous insécurise. Il n'y a qu'à observer notre tête lorsqu'une belle femme fait irruption dans notre espace. Nous la jalousons. Et parfois, nous allons jusqu'à la rabaisser. Moi au moins, j'ai un cerveau, m'avait dit cette collègue en observant un groupe de mannequins. Pour elle, une femme n'avait pas le droit d'être à la fois belle et intelligente. Toutes les fées ne pouvaient pas se pencher sur le même berceau, il fallait choisir son camp dès le départ. Toi, tu seras moche et tu monnaieras ton intelligence. Toi, tu seras belle et tu marchanderas ton corps et ta valeur de femme trophée. Nous reproduisons entre nous ce que les hommes font de nous. Des corps et uniquement des corps. Moi aussi, je me suis laissée aller à cette névrose, à imaginer qu'une seule femme pouvait régner en maîtresse sur le désir de l'autre. À me fantasmer irremplaçable, omnipotente, et en définitive, à souffrir de ne jamais parvenir à être au centre de l'attention, de ne pouvoir capter la totalité de son désir. Oui, j'ai aussi aspiré à cet idéal totalitaire impossible, et je me suis sentie condamnée à cette frustration de ne jamais incarner cette totalité. Et je reste persuadée que si nous nous démolissons mutuellement dans cette compétition sanglante, où chacune se définit comme rivale de l'autre, c'est parce que les femmes se construisent par opposition ou par mimétisme. Combien de fois, dans mon insécurité, me suis-je positionnée en ennemie là où, au contraire, j'aurais dû faire front avec mes sœurs. Au lieu de cela, j'ai participé à ce concours de beauté à grande échelle qui a motivé un quotidien rythmé par les innombrables soins apportés à mon apparence. J'ai acheté de façon compulsive vêtements et accessoires de mode. Je n'ai pas hésité à payer l'équivalent d'un SMIC pour qu'un médecin me brûle la graisse du ventre. Et avec un peu plus d'argent, peut-être aurais-je investi dans des fils tenseurs et quelques injections dans l'espoir d'obtenir un sursis. Je suis tombée dans ce piège parce qu'on éduque les femmes à se contempler morceau par morceau, entre le nez à refaire, les fesses à remuscler, les lèvres à repulper, les bras à raffermir, le sexe à épiler, nous ne nous envisageons jamais dans notre entièreté. Nous sommes morcelés, tels des poupées démembrées. Ce qui me reste de beauté n'est construit que de souffrance et de privation. Si je devais succomber à la tentation de la chirurgie esthétique, je resterais tout aussi malheureuse, car cela ne parviendrait jamais à rassasier ma quête utopique de perfection. Mon obsession de la beauté ne pourra jamais s'étancher, puisqu'il existera toujours un défaut à camoufler, une tare à recouvrir, et cette crainte de ce que l'on pourra trouver en dessous. C'est d'ailleurs bien de cela qu'il s'agit, de camouflage, d'ajout de couches de fond de teint les unes par-dessus les autres. Je n'en peux plus d'être une matière à pétrir, à modeler sans fin, de faire de mon corps entier un sexe à convoiter. Si encore la servitude se limitait à la beauté, mais être belle ne suffit pas, il faut surtout être bandante, comme si l'érection était le pôle d'orientation de notre existence.
Bonjour.
Sur Canal B.
Elle écrit bien quand même, hein, cette Ovidie. Elle écrit mieux que Bruno.
Concrètement, oui.
Oui, on peut le dire. Voilà. Dans ce livre, elle parle donc de ce cheminement à la fois personnel d'elle en tant que femme, dans son rapport à son corps, comme on vient de l'entendre, dans son rapport aux hommes, dans la place que la sexualité a là-dedans et à quel point peut-être il y a une lassitude aussi que... Bien, sans s'en rendre compte, la sexualité hétérosexuelle peut être une forme d'asservissement des femmes, en tout cas, à répondre à des diktats, en tout cas, comme elle l'explique très bien, à avoir un rapport à leur corps biaisé par le fait qu'ils doivent correspondre aux désirs des hommes.
Oui, oui, tout à fait. Puis ce qu'elle décrit bien, c'est ce sentiment d'obligation, d'obéir à des codes, et en fait, qu'on peut retrouver un peu partout, globalement. Par exemple, pour les hommes, l'obligation d'être viril, bander à toute occasion, d'être puissant, c'est ouais. Ça, d'être tout puissant, et finalement... pas, parce que c'est pas si bien que ça. et voilà, et on peut retrouver aussi, en tout cas je parle de moi, de ce que je connais on va dire, du milieu gay, hein. Ce corps qui doit être musclé, y a aussi ce sentiment de devoir rester désirable, par rapport à voilà, une sexualité où on est, enfin, on drague, on est en drague très régulièrement, quoi. Donc,
ouais.
Il faut toujours être dans la séduction et être sûr de plaire, quoi. Donc,
ouais. Et cette injonction aussi à être en bonne santé, bien fité et à jouir.
Oui.
Et ouais. Et quand on se rend compte aussi que, eh ben, on est dans une société qui cache tout ce qui est fin de vie et mort. Et que la séduction, ça permet aussi ça, de masquer ça et de rester effectivement sexy, désirable. Eh bien, ça ne fait que repousser le moment où peut-être on ne le sera plus.
Oui, je pense qu'il y a ça.
Et ça fait trop peur aux humains que nous sommes. Enfin, certains en tout cas. Et c'est vrai que c'est aussi ça. Et je pense que ça peut être intéressant, peut-être à des moments de sa vie, de faire un point là-dessus et de se dire où j'en suis par rapport au fait de pouvoir susciter le désir. Est-ce que je suis OK avec ça?
Oui.
À la fois de le susciter ou de ne plus le susciter. Est-ce que c'est une envie que j'ai de le susciter, ou est-ce que c'est ma jeunesse, ou est-ce que c'est malgré moi? Enfin, je crois qu'il y a quand même peut-être un moment d'introspection à faire là-dessus, en tant qu'être humain, pour être bien avec ça.
Ouais, tout à fait. Et puis, je vois par exemple... On peut se poser la question, pourquoi est-ce que je vais faire du sport? Est-ce que c'est pour m'entretenir pour moi? Est-ce que c'est pour m'entretenir pour plaire? Est-ce que c'est vraiment pour rester en bonne santé? Je pense qu'il y a des choses dont on n'a même pas conscience nous-mêmes. Et effectivement, se poser et réfléchir à ça permet de se dire, concrètement, est-ce que je suis bien comme je suis, j'accepte finalement de moins faire attention et d'en voir les conséquences, quoi, et d'être OK avec ça.
Ouais. Et ben voilà, alors c'est important, voilà, c'est le petit moment de réflexion. Et derrière nous, vous pouvez entendre des gens qui font du bruit, une dame qui parle un peu, qui a l'air de commencer à chanter, mais elle va jamais commencer celle-là ou quoi. Mais côté femme puissante et puissance, ça se pose là. Et puis aussi côté désir, sexiness et ouais, enfin tout ça, c'est évidemment Tina Turner qui donc est partie cette semaine, et à l'âge de 83 ans. Et le morceau qu'on va entendre là maintenant, eh bien, c'est un de ses plus grands succès qui ne date pas de sa première jeunesse. C'est pas comme ça qu'on dit, mais bref, elle était jeune. Là, l'extrait qu'on entend, elle la chante, elle a 60 ans. En live, il me semble, en Angleterre. Elle est perchée toujours sur des hauts talons. Elle a toujours des jupes aussi courtes, des jambes aussi longues et une puissance de ouf, quoi. Et malgré toutes les merdes qu'elle s'est bouffée, dans la vie.
Oui.
Et bien, c'est aussi ça. Peut-être à un moment, pouvoir faire le point avec sa propre puissance et ce qu'on a envie de dégager et essayer de maîtriser ça. Bravo. Et puis merci aussi, madame.
What about
Pour obtenir son arrêt de travail, Sophie avait prétendu être harcelée par un collègue de travail. Elle avait passé seule ces quelques jours, ignorant les appels de ses amis pour ne se consacrer qu'à de courtes promenades, la lecture d'un roman de Fred Vargas et la confection de bons petits plats. Avec délectation, elle imaginait Julien au supplice depuis qu'elle avait pris la porte, feignant de se draper dans sa vertu outragée. Ce temps de loisir l'apaisa, mais ce soulagement représentait peu de choses à côté de l'ivresse qu'elle avait éprouvée après avoir collé la honte de sa vie à Julien, même si ce sentiment se teintait de remords quand elle songeait à la torture que le jeune homme devait endurer. Mais il l'avait bien cherché, estimait-elle. Elle ne cessait de se demander si Julien avait pu voir son visage. Avant de quitter Foxy's, elle était d'ailleurs repassée par les cabinets le temps d'une reconstitution. Elle voulait se rendre compte avec précision de ce qu'il avait eu le loisir d'observer depuis le point de vue qu'il occupait. Cette mise en scène confirma son hypothèse. Impossible que Julien ait pu l'identifier. Quant à la jupe bleue à pois blancs, elle la portait pour la première fois ce matin-là. Elle l'avait achetée la veille en prévision des beaux jours, de même que ses petites baskets en toile. Julien ne l'avait jamais vue dans cette tenue. Il lui suffisait donc de ne plus la mettre pour ne pas éveiller les soupçons. Les jours passant, Sophie parvint à se souvenir de cette exhibition forcée sans angoisse ni culpabilité, et repensa avec une légèreté nouvelle à ce que Julien avait épié. Elle se revoyait jambes écartées. « Il n'a pas vu mon visage, mais il a vu mon cul », murmurait-elle, et en prononçant ces mots, elle sentait la chaleur lui alourdir les reins. C'était comme des incantations qui devenaient de plus en plus crues et ravivaient l'épisode. « Il a vu mon trou du cul. Je me suis godé ma chatte de salope devant lui. Je lui ai dit qu'on pouvait me la mettre par derrière. Je lui ai dit de me regarder. » Ça ne s'arrêtait plus. La première fois qu'elle put repenser à ce qui s'était passé, elle jouit comme une enragée. « Il m'a vraiment vu me bourrer la chatte. C'est vraiment arrivé. » Au cours de ces quelques jours, elle atteignit des orgasmes fulgurants, inégalés. Elle avait, se disait-elle, littéralement vécu un fantasme. Elle voulut que cela recommence. Julien avait repris le travail en l'absence de Sophie dans un état dissocié, ainsi que les psychiatres l'auraient qualifié. Son corps flottait dans les bureaux. Il parvenait à entretenir de brefs échanges courtois ou professionnels avec ses collègues, mais son âme se trouvait ailleurs, perdue dans les limbes. Il attendait que tombe le couperet, calme désormais, résigné à ce que son destin obéisse à des forces qu'il ne contrôlait pas. Il s'imaginait dans l'œil du cyclone, piégé au sein d'un système calme en apparence, mais qui attendait son heure pour se déchaîner. Rien de tout cela n'arriva. Le lundi matin qui suivit sa semaine d'arrêt, Sophie revint mine radieuse comme d'habitude et lança un bonjour enjoué à son collègue. Julien, qui venait de s'installer, se trouva médusé, figé dans une expression blanche et mutique. « Ben alors, qu'est-ce que tu as à me regarder avec des yeux de merlan frit ?»« Je m'inquiétais, tu es revenu ?»« On dirait bien. J'ai chopé la Covid, je suis morte et je reviens te hanter pour tout le mal que tu as fait. » Très drôle. Le jeune homme déglutit à peine, guère rassuré par la réponse ambiguë de Sophie. « Sans rire, je me suis inquiété pour toi. Comment tu vas ?» Sophie ne put s'empêcher d'éprouver de la pitié pour ce bon camarade. Certes, il s'était également révélé bon pervers, mais un pervers raté malgré tout. Il transpirait la culpabilité et l'angoisse. Pas vraiment l'image du gros méchant prédateur. « Ça va, j'ai juste attrapé une petite grippette. Pendant toute une semaine ? Pourquoi tu trouves ça si difficile à avaler ?» L'allusion était d'autant plus claire qu'elle prononça ces derniers mots en vrillant son regard dans celui de Julien. Elle ne pouvait pas s'en empêcher, c'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle lui fasse payer. Au moins un peu, le temps qu'il comprenne qu'elle ne voulait pas qu'il la traite comme un objet. Mais elle n'eut pas le courage de laisser mariner son collègue plus longtemps dans ce qu'elle percevait comme une profonde détresse intérieure. Elle le trouvait presque attendrissant, cet imbécile. C'est presque malgré elle qu'elle lui demanda. « Tu serais libre pour venir à mon anniversaire la semaine prochaine ?» Julien faillit en tomber de sa chaise. Son cœur bondit dans sa poitrine en s'imaginant déjà en tête à tête avec l'objet de son désir. Sans lui laisser le temps de répondre, elle ajouta que ça se passerait dans un bar avec plein d'amis. Il se sentit rempli de reconnaissance envers la jeune femme qui venait de le libérer d'une menace écrasante. Après ce qui lui sembla une éternité passée en enfer, il retrouvait le goût de vivre et renouait avec une fantaisie perdue et mésestimée jusque-là.
Bonjour.
Sur Canal B.
Eh bien, après Tina Turner, c'était Luc.
Bah oui.
Ça sonne bizarrement.
C'était pas la même ambiance, mais on apprécie tout autant.
Bah oui, voilà. Donc c'était la deuxième partie de cette librairie Foutrac qui était donc autour de L'Innocente de Luc Farnade à la collection Les Nouveaux Interdits.
Aux éditions Médiamille.
Et voilà. Bon, alors c'est quand même l'heure de rendre l'antenne.
Ah, mais moi, j'aime pas ce moment-là.
Ouais, je sais, moi non plus, mais ce coup-ci, on se retrouve la semaine prochaine.
Ah,
et puis celle d'après. Et puis,
celle d'encore après, ouais. Et ainsi de suite.
Ouais, vous n'êtes pas débarrassés de nous, les gars.
On a bien vu que vous avez tenté, hein, mais... Bien on a la peau dure.
Ah, bah oui, on a les renflements bruns bien musclés. D'ailleurs, n'oubliez pas de travailler votre périnée. Et ça, je le dis aux amis de mes filles. Bon, je ne donnerai pas les âges de mes filles, mais même à 9 ans, il faut commencer à y penser. Voilà, voilà, donc bossez bien votre périnée. Vous savez, ce petit ascenseur, là, quand peut-être vous vous retenez de faire pipi, mais il ne faut
sûr.
Jamais le faire en se retenant de faire pipi. C'est absolument très mauvais. Mais faites-le, par exemple, là, pendant que je vous parle, je monte mon petit ascenseur et je suis en train de muscler mon périnée. Donc, quand vous êtes dans le métro, dans le bus, assis au travail, vous avez une petite pensée pour votre périnée, c'est important. Homme ou femme, car ça reste quand même le hamac de de tous vos organes génitaux. Et si vous voulez une fin de vie...
Il faut muscler votre hamac, très important.
Voilà, c'était la préconisation médicale de la semaine. La semaine prochaine, un conseil sur... Je n'ai pas encore quoi, mais vous verrez.
On trouvera bien.
Ça va être super. Donc pensez à vos petits périnées. Nous, bon, les muscles, on entretient tout
ça. Bah oui, même pendant l'émission, on n'arrête pas.
On n'arrête pas là. Je peux te dire que j'ai les, j'arrête pas.
On va peut-être s'arrêter là.
Oui, pardon.
Qu'en dites-vous, ma chère Agathe?
D'accord, ouais, je suis tellement excitée, je mouille, j'y peux rien. Depuis que Bruno m'a dit que quand on était excité, on mouillait, bah voilà, ça y est, ma vie a pris un sens.
Ouais, mais c'est un peu dangereux parce qu'on risque de glisser des fauteuils. Faut faire gaffe quand même.
Oui, c'est vrai. Bon, et eh bien, on peut se dire qu'on se retrouve la semaine prochaine à 23h, que c'est une grande joie d'être auprès de vous. Et puis quoi,
on vous aime fort. On vous aime fort, il faut le dire.
Oui, et puis tiens, on a oublié complètement de faire un petit coucou à nos collègues métalleux. On a vraiment pris l'antenne comme des salauds. Eh, salut. Cassez-vous les métalleux, c'est à nous. Bon, bah là, on vous refait un petit coucou de transition. Quand même, on avait cette tradition qui était quand même très chouette. Maintenant, place au programme de la nuit sur Canal B.
Attention.
Et nous, on vous retrouve dimanche prochain à 23h. D'ici là, passez une
foutrement belle semaine
sur Canal B.